L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local de ce vendredi 30 avril. Aujourd'hui, on tend le micro aux occupants du Théâtre de Laval à leur 46e jour de mobilisation. On va entendre quelles sont leurs priorités et puis aussi leurs réactions après l'annonce du déconfinement pour les lieux culturels à partir du 19 mai. On va parler aussi d'une association qui agit en soutien aux jeunes atteints de troubles psychiques, c'est l'association Schizojeune. En manque de financement cette année à cause de la crise sanitaire, elle se lance dans un financement participatif pour continuer les séances d'équithérapie. Et puis en fin d'émission, comme chaque vendredi, vous pourrez retrouver la chronique Service Civique avec aujourd'hui un retour d'expérience d'un ancien volontaire à Nantes qui était au VLIP, une web TV qui met en avant l'engagement des jeunes. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité, avec dans la région une décrue très lente encore de l'épidémie, selon Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence s'élève à 243,4 pour 100 000 habitants et le taux de positivité est à 9%, des chiffres en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Dès lundi, les collégiens et lycéens pourront retourner en cours. Ce sera en demi-jauge pour les classes de 4e et 3e pour nos voisins de la Sarthe et pour tous les lycéens. Les syndicats s'opposent à la suppression du poste d'infirmière scolaire. Ils ont voté contre le redéploiement de ce poste du lycée Réaumur à Laval à plusieurs établissements en Loire-Atlantique lors du comité technique spécial départemental de l'éducation nationale qui a eu lieu hier. En cause, le manque de médecins dans le département et des missions déjà très importantes pour les infirmières scolaires. Le directeur académique devra donc réunir partir sur une nouvelle réunion dans les prochains jours. Les élus locaux de la LGV Bretagne-Pays de la Loire rappellent l'importance de cette ligne ferroviaire. Et parmi eux, Olivier Richefou, le président du département, et Florian Bercot, le maire de Laval. Réunis hier soir en visioconférence, ils demandent la prolongation de 2 ans minimum de la convention de desserte actuelle, qui arrive à échéance en janvier 2022. Elle fixe le nombre de dessertes ferroviaires quotidiennes pour les gares du Mans, de Sablé-sur-Sarthe, de Laval et de Vitry. Dans le Nord-Mayenne, une porcherie a pris feu hier au lieu-dit la ferme du Bois Huchet à Conteste. Les flammes se sont déclarées vers 17h dans un bâtiment qui abritait 450 porcelets. Les 350 premiers sont morts dans l'incendie et les autres grièvement brûlés ont dû être euthanasiés par les services vétérinaires. Mais le propriétaire, lui, heureusement, n'a pas été blessé. Les ventes de muguet autorisées pour le 1er mai, mais sous certaines conditions forcément, comme le précise la préfecture de la Mayenne. Elle sera possible dans les commerces déjà ouverts, notamment les fleuristes, les jardineries et la grande distribution, mais aussi dans les points de vente tenus sur la voie publique par des associations ou des particuliers, avec 6 personnes maximum en même temps. Et pour rappel, vous pourrez aller les chercher dans un périmètre de 10 km autour de chez vous. Enfin, un mot de foot avec le Stade Lavallois qui veut assurer son maintien. Les Tangos affrontent ce soir Bastia Borgo à 18h au stade Francis Lebasserre. Ils veulent continuer sur cette dynamique après la victoire du week-end dernier contre Concarneau. Il reste seulement 3 matchs au Lavallois, qui est 12e du championnat de national. Enfin, vous le savez, on le sait effectivement depuis hier soir, le déconfinement se fera en 4 étapes. La première, ce lundi, permettra de se déplacer sans attestation. Et la deuxième, le 19 mai, amorcera la réouverture des musées, des salles de cinéma et des théâtres, mais avec des jauges limitées. 800 personnes maximum en intérieur contre 1000 en extérieur. 2 occupants du théâtre de Laval ont accueilli la nouvelle sans afficher une grande satisfaction.
Ben non, parce que c'est une réouverture partielle qui est annoncée, et puis c'est un effet d'annonce. Donc tant qu'elle n'est pas effective, on en a déjà subi plusieurs. Donc on est très prudent, parce qu'il est question de pourcentage, il est question que d'une partie du secteur de l'activité. C'est-à-dire on parle de musée, on parle peut-être de théâtre, mais on ne sait pas exactement avec quelle jauge. Il n'est pas vraiment question des festivals. L'événement, on ne sait pas non plus. Donc tant que les choses ne sont pas réelles et définies par des décrets ou effectives, on est dans l'attente. Oui. Une réouverture partielle des lieux culturels ne peut pas résoudre à elle seule un an de fracture et de rupture d'une activité. Donc il est absolument nécessaire qu'il y ait le retrait de la réforme de l'assurance chômage qui crée de la précarité supplémentaire dans notre secteur d'activité comme dans d'autres, mais en particulier c'est celui-ci dont on parle tout de suite. Une prolongation aussi des droits chômage, que nous on appelle dans notre secteur d'activité l'année blanche, parce que tant qu'il n'y a pas eu une reprise totale de l'activité, les professionnels du spectacle ne peuvent pas avoir rechargé des droits pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation quand ils ne travaillent pas. Et puis qu'il y ait un plan de relance efficient pour une réouverture totale et accompagnée de notre secteur, parce qu'on a absolument besoin, comme tout autre type d'industrie ou de secteur économique, d'avoir un plan de relance efficace.
Pour nous, on s'inscrit vraiment aussi dans une démarche d'éducation populaire. Et il y a cette volonté aussi de partager ça avec d'autres et pas que les personnes présentes ici. Dans cette idée-là, on a monté une chaîne YouTube où on peut retrouver des interviews, des agora. Il y a une coordination vraiment nationale de tout ce qui se passe en local. Il y a plus de 100 lieux occupés en France. Il y a vraiment une convergence sur tout ce qui se passe en local. Et une volonté, effectivement, de passer la deuxième, comme dit l'un d'entre nous, là, pour voilà, faire encore plus de bruit et que le gouvernement reçoive vraiment ce qui est dit. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il entende, en fait. Donc, on voilà, susciter une écoute un peu plus forte, donc par d'autres moyens qu'il va falloir qu'on invente.
Et en attendant d'en savoir plus, une chose est sûre, les occupants du Théâtre de Laval rejoignent le cortège du 1er mai mené par l'intersyndicale, un cortège qui s'arrêtera symboliquement demain matin devant le parvis du Théâtre de Laval. Et puis à noter aussi que les occupants du Théâtre de Laval ont désormais un compte Instagram pour communiquer et bientôt ils auront un compte Discord pour justement partager toutes ces nouvelles vidéos dont vous avez entendu l'existence donc dans ce son. On va parler justement après de l'association Schizogène qui lance un financement participatif et qui continue d'accompagner les jeunes qui ont justement des troubles psychiques malgré le contexte pas évident. Mais ça, ce sera dans 3 minutes juste après avoir écouté Need a Little Love par The Fratellis.
Yeah.
Love de The Fratellis. Vous êtes toujours à l'écoute de la JT du local. Et c'est une première, l'association Schizogène lance un financement participatif pour pallier l'absence de fonds récoltés habituellement pendant diverses manifestations, avec un objectif bien précis, financer les séances d'équithérapie pour les jeunes atteints de troubles psychiques. L'occasion de revenir sur ce défi, mais aussi pour commencer sur l'origine de l'association avec sa présidente Jennifer Bunin.
Donc en fait, on l'a créée en 2014, l'association, et l'objectif c'était d'accompagner des enfants atteints de schizophrénie précoce. Donc ainsi que les familles d'ailleurs. Et en fait, l'objectif c'était de leur créer des activités, de soutenir les parents pour pas qu'il y ait l'isolement social, pour briser un peu l'isolement social, et essayer de favoriser le retour à l'école. Ça a évolué au fil des années. Et aujourd'hui, on accompagne toujours des enfants, mais aussi des jeunes adultes atteints de schizophrénie, mais aussi de troubles psychiques, divers en fait.
Donc votre public s'est élargi en quelque sorte au fil des années ?
Oui, il s'est élargi. On a des enfants et on a aussi des jeunes adultes, je dirais jusqu'à 25-26 ans. Après, c'est en fonction de leur maturité surtout.
Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé, on va dire, à devenir présidente justement de l'association et donc à vous engager
Parce qu'en fait, en 2014, j'avais mon fils qui était du coup atteint de schizophrénie précoce. Et à cette époque-là, c'était un peu, fallait surtout pas dire que votre enfant était atteint de schizophrénie. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a un peu, révoltée et mise en colère, parce que je voyais pas pourquoi mon fils devait cacher sa maladie au même titre que n'importe quelle autre maladie. Et en plus, dans le même temps, donc, il pouvait plus aller à l'école. Donc, il fallait que je trouve des trucs pour réussir à l'occuper, pour pas qu'il reste isolé à la maison tout le temps. Je voyais bien que c'était pas, qu'il s'enfonçait en fait de plus en plus, il était de plus en plus hospitalisé. Donc c'est de là que mon psychiatre m'a dit ça serait bien de créer une association, parce que j'ai plein de parents qui sont dans le même cas, plein d'enfants qui sont dans le même cas, et si tout le monde pouvait se rejoindre, ce serait quand même plus facile pour s'en sortir. Donc c'est de là qu'est née l'association. Entre-temps, donc je suis restée toute l'année, parce que il n'y a pas grand monde qui a envie de prendre ma place. De deux, en fait, du coup, j'ai deux enfants atteints de troubles psychiques maintenant. Et en fait, c'est devenu ma passion. Je suis passionnée par ce que je fais, par l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des familles. C'est devenu ma passion.
Comment ça se traduit justement au quotidien dans vos activités ?
Alors donc du coup, bon, avec le confinement, je vais vous dire, la crise sanitaire, c'est vraiment compliqué. Donc là, ce qui est maintenu, c'est toutes les activités d'équithérapie. Donc les jeunes, ils vont une fois par mois faire de l'équitation. À côté, il y a plein de sorties qui s'organisent, des sorties, des randonnées, des sorties en extérieur, des pique-niques. Enfin, on essaye d'organiser des choses. On s'adapte beaucoup aux mesures sanitaires, on va dire. Donc on est toujours en train de changer notre manière d'agir. Et avec les parents, pour l'instant, on n'a pas le droit de se réunir dans des lieux clos. Donc, on se réunit souvent à l'extérieur.
Oui, forcément, comme beaucoup d'associations, il y a un impact à cause de la crise sanitaire. Je voulais revenir sur un de vos propos. Vous disiez que donc votre fils n'allait plus à l'école. Comment ça se manifeste pour qu'on comprenne bien la schizophrénie au quotidien ?
Ça, c'était avant. Maintenant, ils sont tous les deux retournés à l'école. Donc, pour l'histoire de Jason, qui est à peu près la même histoire que pour Mathéo. Donc du coup, c'est vraiment une phobie sociale. C'est des hallucinations, en fait, qui les poursuivent tout le temps. Donc en fait, ils ont du mal à se concentrer. Et ils en viennent à avoir peur des gens. Pas peur parce que ils voient bien que il y a plein de sons qui arrivent. Et ils peuvent penser, enfin pour Jason, par exemple, ils pensaient que c'était la pensée des gens. Donc, en fait, il entend des gens rigoler de lui, lui dire qu'il est nul, qu'il sert à rien, et donc, du coup, petit à petit, ça a été une véritable phobie sociale. Impossible d'aller dehors, impossible. Et donc, du coup, pas d'école. trop de monde.
Et alors, justement, vous dites que ça, c'était avant, c'est-à-dire que maintenant, il y a eu aussi peut-être ces activités qui l'ont fait retrouver ce lien social et donc cette possibilité de retourner en cours.
C'est un tout, parce que, d'une, donc, il était hospitalisé à l'UGCA. Donc il a été accompagné. Alors Jason, il vous en parlerait comme quelque chose de très négatif, mais ça lui a quand même permis de garder les pieds sur terre. Et puis il y avait tout l'accompagnement médical qui était quand même nécessaire. Et à côté, quand il sortait, je lui trouvais des activités. Donc j'ai eu la chance, avant l'association d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être tombée sur des profs vraiment exceptionnels au Collège Saint-Michel qui ont beaucoup accompagné Jason tout seul. En fait, il le prenait tout seul dans une classe. Et à côté, donc du coup, avec l'association, on a réussi à réunir d'autres enfants. Et ils ont pu se réunir autour d'activités comme le karaté, comme l'équitation, ou bien on avait fait aussi du karting, des sorties. Et ça leur permettait quand même d'avoir une enfance, d'avoir un minimum de liens sociaux, des copains. C'était compliqué, hein, je vous le cache pas.
Mais justement, en tout cas, là, ce lien avec les autres, il était possible lors de ces activités.
Oui, il était possible, même en dehors de... Alors, vous voyez, aujourd'hui, l'association, elle a évolué. Là, je vous parle de ce qui était en 2014. Aujourd'hui, ça a bien évolué parce que maintenant, les jeunes, ils se sont carrément créés des groupes Snapchat, des groupes avec WhatsApp en visio. Et puis, tous les soirs, ils s'appellent, ils font des visios pour s'encourager, raconter leur journée, parler des difficultés qu'ils ont rencontrées, tous les soirs.
Donc, c'est un vrai soutien, en fait.
Ah, c'est un vrai soutien. Ils se soutiennent, ils se montent vers le haut. Et quand il y en a un qui ne va pas, du coup, ils sont tous là autour d'eux. Ils sont tous là pour s'aider les uns les autres. Et si ça va trop loin, comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, où il y avait un jeune qui se perdait un peu, et ben du coup, c'est à ce moment-là qu'il me contacte et moi, je rentre en jeu, on va dire.
Donc, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a parfois, comme vous le disiez, des histoires pas évidentes. Vous arrivez à gérer, justement et
Moi, je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour ça, pas que pour ça. Mais en fait, quand il y a un jeune qui est en train de perdre pied... J'évalue si il perd pied ou là il faut vraiment un accompagnement psychiatrique, avec le psychiatre, si c'est un problème médical de traitement ou bien il commence à faire une rechute ou rentrer en crise, ou bien si c'est simplement un moment de solitude ou un moment où il perd confiance en lui. Alors souvent, vous voyez, par exemple, je vais appeler le jeune, je vais voir avec lui où il en est, et puis j'appelle aussi les parents pour voir eux ce qu'ils voient. Et de là, on s'adapte. Dernièrement, on a fait hospitaliser une jeune comme ça, qui est sortie de l'hôpital et qui va mieux. Mais à ce moment-là, c'était utile, il fallait l'hospitaliser parce qu'elle devenait un danger pour elle-même.
Donc oui, c'est là, quand vous voyez ces signaux d'alarme, que vous dites, bon, là, il n'y a pas le choix.
Là, il n'y a pas le choix, il faut faire quelque chose. Mais toujours, parce qu'en fait, au fil des années, on a réussi à créer, au fil des années ou des mois, parce qu'il y en a qui viennent juste d'arriver, on crée un lien de confiance. Donc quand je parle avec eux, soit avec l'aide des parents, soit toute seule, ça m'arrive aussi. Hein. Ils savent que je vais pas leur dire bon là il faut vraiment aller voir avec le psychiatre ou là va vraiment falloir que tu penses à l'hospitalisation. Ils savent que c'est pas pris à la légère, c'est important dans le moment présent de faire quelque chose.
Et puis après, avec des histoires aussi, j'imagine, qui vont mieux, comme là, cette jeune qui va mieux.
C'est une fille qui va mieux. Elle est sortie de l'hôpital, elle va mieux. Elle vient juste d'être diplômée. Donc oui, elle va mieux.
Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, j'imagine que là aussi, ça a un impact sur le moral, peut-être encore plus.
Alors, pour les nouveaux qui arrivent, on voit que ça... qui s'en sont pris plein la figure, si je peux dire. Pour ceux qui étaient déjà là dans la sauce, qui ont déjà créé, moi je dirais qu'ils s'en sortent grandis. Ils ont pris des initiatives pour réussir à soutenir les uns les autres, ils s'en sortent grandis.
Oui, comme là vous parliez de ces groupes WhatsApp, ouais. En tout cas, où ils échangent, peut-être que ça s'était pas mis en place
Non, il y a un an, surtout au premier confinement, on pouvait vraiment pas se voir, là on peut. Même pendant ce confinement, on a pu se voir, et le confinement d'avant aussi, on a pu se voir. Mais au premier confinement, il y a vraiment une rupture complète, on ne pouvait carrément pas se voir. Donc c'est là qu'ils ont développé les groupes WhatsApp et compagnie. Et vraiment, ça a été une vraie surprise pour moi. Parce que avant la crise, je portais en fait toutes les activités. J'étais celle qui donnait envie et celle qui organisait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est eux. Ça, c'est positif. Ils ont pris en main. Quand j'accueille des jeunes maintenant dans la sauce, je les accueille, mais c'est plus que moi. C'est surtout eux, en fait. Ils viennent avec moi et parfois même, c'est eux qui ont été chercher le jeune qui était en souffrance et que c'est eux qui l'ont ramené dans l'association. Ça a vraiment beaucoup changé de ce côté-là. Ils ont grandi.
Donc oui, c'est ça, il y a eu tout un travail qui a été fait. Et parmi les activités qui sont maintenues, donc vous parliez tout à l'heure des séances d'équithérapie.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est ?
Donc l'équithérapie, en fait, c'est une sorte de thérapie avec le cheval. Donc l'objectif, c'est de reprendre confiance en soi, tout en s'occupant d'un animal. En fait, le cheval, il va sentir toutes vos émotions. Il ressent vos émotions, vos énervements, ou bien le fait que vous ayez pas la forme. Donc en fait, vous êtes obligé, enfin sans être obligé, en fait, ça se fait un peu naturellement, de vous adapter à lui. C'est vraiment pas pareil. Enfin, vous faites du vélo, c'est vous qui décidez avec le vélo. Le cheval, s'il veut pas, il veut pas. Donc vous apprenez à rentrer en contact avec le cheval et avoir confiance en soi, parce que monter sur un cheval, c'est pas forcément évident. Et on est tout seul sur le cheval. Donc, il faut qu'on arrive à maîtriser nos émotions.
Et ça fonctionne bien, en général, justement, auprès des jeunes ?
C'est l'activité qui fonctionne le mieux dans l'association. Ça fonctionne très, très bien. Il n'y a pas que le côté équithérapie. Vous voyez, il y a tout le travail qui est fait avec le cheval. Mais je dirais, il y a aussi le transport. Alors, comme ça, vous direz, c'est le transport, ça peut être casse-pied dans une voiture. Mais en fait, donc, je vais chercher tous les jeunes à domicile. Donc, j'ai des jeunes du département de la Mayenne. Donc, ce qu'il peut faire à 7 km... pas mal de kilomètres, ça peut parfois faire jusqu'à une heure de voiture, où là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils parlent, ils rigolent, mais ils parlent beaucoup. Ils parlent de leurs problèmes. C'est là que naissent aussi de nouvelles idées. Il y a de nouvelles idées qui peuvent venir. Donc, c'est vraiment toute l'activité, le avant, le pendant, le après, qui fait que ça fonctionne, je pense.
Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que c'est si important, que vous avez lancé ce financement participatif.
Oui. Alors on n'est pas très collecte de dons dans l'association. En général, en fait, tout l'argent qu'on a, on le gagne. C'était aussi un choix, ça. C'est pour sortir du quotidien et reprendre un lien social. On trouvait ça plutôt bien avec le CA de gagner l'argent qu'on va dépenser après. Donc, on a demandé une fois des subventions, ça nous est arrivé une fois. Et là, on lance une collecte de dons à cause de la crise sanitaire, parce que il n'y a plus de manifestations, donc on peut plus gagner l'argent.
Parce que avant, ça pouvait être quoi justement les actions qui étaient mises en place ?
Alors, plein. Hein. Par exemple, on tenait des stands au marché de Villiers-Charlemagne les mercredis soirs de juillet-août, où on faisait de l'animation pour les enfants. On tenait aussi un stand de restauration à la Chalibaude. On tient des stands comme à la braderie, Château-Gontier, on tient un stand de maquillage. On gagnait plus de 6000 euros comme ça dans l'année. C'est là qu'on voit les limites de notre fonctionnement, bon, j'ai envie de dire. Bon, ceci dit, on va pas enlever ce fonctionnement, parce que ce qui est quand même presque tout le monde est pressé de reprendre. Parce que c'est toutes ces manifestations auxquelles on participe, auxquelles on pourrait dire on travaille. Il n'y a pas que du travail, il y a aussi beaucoup d'échanges, parce que là, il y a les parents qui viennent, il y a les jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui n'ont rien, qui n'ont pas de troubles psychiques et qui sont bénévoles dans l'association, qui viennent. Et ce brassage de monde, ça donnait un élan qu'on est en train de petit à petit perdre. Donc, on est vraiment pressé de retrouver tout ça.
Oui, hâte, j'imagine, effectivement, de retrouver toutes ces activités autres. En attendant, si on veut vous aider, justement, grâce à ce financement participatif, comment on fait ?
Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, on va sur les réseaux sociaux où on trouve Schizojeunes. On aime nos posts. Chaque post où on a un j'aime ou un like, ça nous rapporte 2 points. Donc, ça coûte pas d'argent de mettre un like, mais c'est 2 points en plus pour l'association. Et aussi, autre chose importante, on va sur Ulule. Ulule, c'est Schizojeunes Équithérapie. Sur là, on met un cœur, suivre le projet. C'est pareil, ça coûte 0 centime, ça nous rapporte 2 points. Je vous explique le système de points. En fait, c'est un challenge. On est 20 associations qui sommes sur ce challenge. Le 18 mai, il n'en restera que 10. Et pour être dans les 10 associations qui restent, il faut avoir le plus de points possible. À ce moment-là, Ulule nous reverse 1000 euros. Enfin, le petit codon nous reverse 1000 euros. Le 18 juin, il ne restera plus que 5 associations. Et là, il nous reverse encore 1000 euros. Donc, ça fait déjà 2000 euros. Et après, on peut faire aussi des dons, ça nous rapporte des points. Même un don de 5 euros, ça nous rapporte des points.
Donc, justement, après, l'idée, c'est que cette somme, si vous la gagnez, ce serait qu'elle permette de financer ces séances d'équithérapie.
Oui. ouais, de financer, de continuer l'équithérapie. Jusqu'à temps qu'on puisse, ça peut nous pousser jusqu'aux reprises de manifestations parce qu'on va pas se leurrer. On voit bien que l'accès sanitaire, elle est toujours là, que ça va ouvrir. Mais est-ce que nos stands, comme Maquis et les enfants, j'ai tendance à croire que ça va être compliqué de rouvrir ça. Donc c'est pas pour demain qu'on va pouvoir retravailler, j'ai envie de dire entre guillemets. En plus de ça, ce que j'aimais bien dans ce projet, dans ce challenge, il y a plein d'autres collectes de dons qui peuvent être faits, mais celle-ci, ce que j'aime bien, c'est qu'il faut être très actif. Donc c'est un peu un défi où les jeunes, ils peuvent avoir leur place. C'est pas simplement aller chercher de l'argent, ou ça, c'est toujours compliqué de demander de l'argent. Mais là, on va juste demander des j'aime, des partages. Pour les jeunes qui aiment bien les réseaux sociaux, c'est plutôt sympa, je trouve.
Et justement, n'hésitez pas à vous rendre vous aussi sur les réseaux sociaux de l'association ou sur Ulule en tapant Schizo Jeune. Vous avez jusqu'au 18 mai pour y participer. On revient juste après une petite pause musicale assurée par Hills avec leur titre Good Morning Bright Eyes. Ce n'est plus le moment de vous réveiller. On vient d'écouter Good Morning Bright Eyes de Hills sur l'autre radio. Vous êtes toujours à l'écoute de l'AJT du local. Et comme chaque vendredi, on retrouve notre chronique Service Civique qui est aujourd'hui signée Jet FM. On part donc à Nantes à la rencontre de Romain. Un an après la fin de sa mission au VLIP, une web TV locale qui cherche à faire participer les jeunes, il revient sur son expérience et ce qu'elle lui a apporté dans la suite de son parcours.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Bonjour, alors je m'appelle Romain Séchet et je suis ancien service civique au VLIP. C'est une association étudiante à Nantes qui vise à favoriser l'accès à la production médiatique. Et moi, j'étais en service civique de octobre 2019 à mai 2020. J'accompagnais le technicien audiovisuel du VLIP. Je m'occupais de la gestion du matériel et puis de l'accompagnement des bénévoles. Moi, je les accompagnais sur la partie technique. Et actuellement, je suis aide-soignant dans un EHPAD.
Et alors, pourquoi avoir fait un service civique à l'époque ?
Alors, à l'époque, donc l'année d'avant, avant de commencer mon service civique, j'étais à la fac. Et ça me plaisait pas trop, la fac. Je voulais un peu chercher autre chose et un truc un peu plus concret. En fait, je voulais un peu me professionnaliser dans la vidéo, donc dans le montage et dans la réalisation. Et donc, j'ai trouvé ce service civique. En fait, je voulais pas plus que ça faire un service civique. Je voulais faire de la vidéo.
Qu'est-ce que ça t'a appris, le service civique ? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétence au niveau professionnel ?
J'ai appris à monter sur des logiciels professionnels, à utiliser du matériel professionnel, des caméras de vrais journalistes professionnels, on va dire. Et après, c'est pas forcément les trucs que j'utilise aujourd'hui dans ma vie professionnelle, mais c'est des trucs qui me servent quand même beaucoup à côté, parce que je continue à faire des vidéos.
Et à part l'aspect technique, qu'est-ce que tu retiens de ce service civique ?
C'était très sympa de rencontrer les bénévoles. Moi, j'avais aussi toute la partie formation des bénévoles qui était intéressante. Tu leur fais découvrir un peu ta passion, tu leur montres comment la caméra fonctionne, comment tu vas t'organiser pour faire ton montage et tout. C'était très sympa.
Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait un service civique t'a aidé dans la suite de ton parcours professionnel ou scolaire ? Et en quoi, dans le sens, est-ce que c'est quelque chose qui est apprécié par les recruteurs ?
Je pense que c'est apprécié par les recruteurs parce que ça justifie d'une expérience dans un milieu professionnel ou semi-professionnel. Après, j'imagine que sur un CV, ça fait bien d'avoir fait un service civique. Ça fait un peu d'expérience et tout, même si ce n'est pas dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui.
Est-ce que tu aurais des retours à faire sur le dispositif du service civique ?
Autant, je trouve que mon service civique s'est bien déroulé. La structure qui m'a accueilli, ça s'est très bien passé. J'en suis très satisfait. Autant le dispositif, je trouve qu'il y a plein de choses à redire sur le fait que déjà, c'est très mal payé. J'ai un peu un sentiment amer vis-à-vis quand même de comment c'est promu et comment c'est géré. Parce qu'en fait, c'est une forme de travail dissimulé, je trouve. C'est une manière de dire bon, c'est super, les jeunes, vous allez faire un peu d'expérience. C'est le cas. Ça permet de se faire de l'expérience en tant que jeune, de trouver un truc assez facilement. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même du travail. Et en fait, tu n'as quasiment aucun droit. Tu n'as pas de droit de travailleur parce que tu n'es pas considéré comme étant travailleur. Moi, par exemple, un truc qui m'a un peu choqué, c'est que quand tu es en service civique, tu ne cotises pas au chômage. Malheureusement, je trouve que c'est difficile de mobiliser un petit peu les volontaires en service civique sur les questions de leurs revenus, de leurs conditions de travail. Des fois, ça se passe mal, machin. Avec des potes service civique d'un peu partout dans Nantes, de plusieurs assos, on avait commencé à discuter un petit peu de ça. Et ça n'a pas abouti à grand-chose, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. S'il y a des services civiques qui entendent ça, il ne faut pas hésiter à en discuter un peu collectivement parce que la galère, la précarité et tout, c'est chez les étudiants, mais c'est aussi chez les services civiques et ça représente beaucoup de monde, les services civiques.
Est-ce que tu conseilles ou as déjà conseillé à d'autres jeunes de faire un service civique ?
Moi, j'ai conseillé à des potes de faire des services civiques, mais uniquement si c'était dans des domaines qui les intéressaient. Mais par contre, moi, ça m'a beaucoup aidé à déjà prendre une année pendant laquelle tu fais un truc qui te passionne, puis tu as un peu le temps aussi de réfléchir à ce que tu vas faire après, faire enfin quelque chose qui te plaît et dans lequel tu t'épanouis et où tu as des résultats qui sont satisfaisants. Ça, c'était un gros plus.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
On passe désormais à la rubrique initiative et ce week-end, on en profite, on s'aère l'esprit et grâce notamment aux chants d'oiseaux. Peut-être même parviendrez-vous à les identifier. C'est en tout cas le thème de la sortie nature proposée dimanche par l'association Mayenne Nature Environnement. Pour y participer, rendez-vous à 9h à l'entrée principale du jardin de la Périne à Laval. La sortie sera animée par Michel Caigneux que vous pouvez joindre au 06 89 07 90 85. Et puis on vous propose de prendre un bol d'air frais d'une autre manière à Mayenne demain samedi en participant au nettoyage de la rivière. C'est une initiative du club de canoë-kayak de Mayenne dans le cadre de la Journée internationale de la Terre qui a eu lieu il y a quelques jours, le 22 avril. Vous êtes donc invités à ramasser les déchets avec les licenciés à partir de 10h du barrage de Saint-Frimbaud de Prières jusqu'au club de kayak. Un joli défi écolo en perspective donc que je vous invite à donc faire demain, c'est à Mayenne. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui vendredi et puis donc pour cette semaine. À suivre à l'antenne à 20h, il y aura Passe-moi le thème. Le thème justement c'est décollage immédiat avec donc des titres d'albums de pochettes affichant des avions, c'est logique. Et nous donc on se retrouve lundi, je vous souhaite un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.